day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM et donc dans Bang Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis, enfin tous les 15 jours maintenant. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison. Bonjour Seb.
Salut Pablo.
Et voilà, donc on est hyper content de clore cette saison avec vous. Et puis, bien sûr, on fait un gros bisou et un coucou à Sébastien et Anaïs qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui.
Bah oui, et puis on va les retrouver, de toute façon, on les retrouvera au mois de septembre, quand on reprendra l'émission directement.
Exactement.
Et donc, on va commencer avec un petit morceau de musique.
Oui.
Tu nous proposais quoi ?
Alors, je propose Kimber Rose. Ça s'appelle Back on My Feet. Alors, en fait, au départ, il faut savoir que c'est un groupe français, mais avec une franco-américaine qui chante en anglais, une voix soul assez extraordinaire. Elle a été révélée à la nouvelle star, en fait. Mm-hmm. Mais très vite, c'est révélé que c'était une artiste avec une grosse dimension. Et voilà, son deuxième album est sorti, et vraiment, c'est hyper intéressant.
Et bien, on va découvrir ça dans Radio G, sur Radio G, dans Bang Geek Mafia, 101.5, la radio qui fait le point.
Oh, I know I've been there before, but I ain't sorry, it's plain to see. I just let go, this time for sure, and in the blink of an eye. Trying to escape, at least I'm gonna give it a try.
Alors, c'était Back on My Feet de Kimber Rose. Spécial dédicace.
Culture Shock Radio FM.
Oui, alors pardon, c'était donc Kimber Rose, Back on My Feet, et spéciale dédicace à Sarah. Voilà, vous savez tout.
Eh bien, ça fait du bien, ça décrasse un petit peu les cages à miel, hein, comme dirait Tonton Zayut. Hein,
ça donc, met la pêche.
Ça met la pêche, ouais. C'est bien. C'est... Comme quoi, on va commencer tranquillement comme ça. Alors, bah, on va commencer avec le cinéma, on
ouais,
va dire.
T'as une belle annonce à nous faire, donc là, ça va être sympa.
Ouais, une belle annonce. Oh, une belle annonce, je sais pas. Il y en a certains qui ont.
Ah, je crois que.
Ouais, c'est quand même attendu.
Assez attendu.
Qui est quand même assez attendu. Ouais. Bah, je vais vous mettre déjà dans le bain. Je vais pas faire un générique habituel. Je vais juste faire un autre générique, mais vous allez voir. Ah.
Alors.
Elle,
ça arrive.
On recommence. Hein, c'est normal, c'est Momo, ça fait longtemps qu'il n'était pas à la technique. Et alors, à ton avis, de quoi donc on va parler ?
Mais de Kaamelott !
Mais de Kaamelott, effectivement, puisque Kaamelott, enfin, si normalement tout se passe bien, eh bien, on devrait enfin la voir le 21 juillet sur les écrans, et avec des avant-premières un petit peu partout en France. Alors, faut chercher un petit peu, parce qu'il y a le site officiel qui vous annonce des avant-premières. C'est un petit peu compliqué, mais bon, il y a des avant-premières prévues le mardi 20 juillet. Donc là, je pense que ça va être la foule, ça va faire plein. Ça va être le plein complet, étant donné que l'on attend la chose quand même depuis... depuis combien de temps ? Depuis presque 10 ans quand même.
Ouais, quand même. Hein,
10 ans, 10
que
ans.
Que ça a été lancé.
Oui, effectivement, ouais. Puisque à l'origine, le premier volet, alors donc je vous rappelle un petit peu hein, quand même, pour ceux qui, je sais pas, qui vivaient sur la planète Mars, Neptune, ou qui ont fait un voyage intersidéral, on sait jamais. Donc je vous rappelle quand même que Kaamelott, à la base, c'est quand même une série, avant tout, hein, une série qui a été diffusée pour la première fois en 2003 sur M6, et puis qui a duré pendant un petit bout de temps quand même. Hein. J'ai plus la date de fin, à peu près, on devait être... 2005-2009, puisque en 2003, ouais. C'est le préquel, hein, c'est-à-dire le premier volet d'Yes Irae, qui avait été donc fait, réalisé et diffusé. Cette série, bien sûr, met en avant l'histoire du roi Arthur, que tout le monde connaît, hein, cette fameuse légende arthurienne, bien sûr.
Et les chevaliers de la table ronde.
Les chevaliers de la table ronde. Donc, effectivement, nous sommes à peu près vers la deuxième moitié du 5e siècle, à peu près dans une île qui s'appelle Bretagne. Hein. L'Empire romain s'effondre, le christianisme s'impose un peu à peu, et puis bah, le roi Arthur arrive avec ses chevaliers, finalement, sa table ronde, et va se lancer dans, finalement, une quête très très complexe, la quête du Graal. Je sais pas si ça te...
Qu'est-ce que le Graal ?
Mais le Graal, oh, c'est le vase sacré qui aurait recueilli le sang du Christ. Oh mon Dieu. Oui. Seuls les cœurs les plus purs peuvent l'atteindre. Et malheureusement, dans cette aventure, eh bien, on a des cœurs purs, mais on a surtout une belle bande de branques. On peut pas mieux dire, hein, quand même. Hein.
C'est ça. De baltringues.
Alors. Cette version, finalement, de la légende arthurienne a été écrit par Alexandre Astier, hein, entre autres. C'est lui le principal rédacteur, ouais. Réalisateur, interprète aussi du roi Arthur. Mm-hmm. Et on a quelque chose d'extrêmement truculent, puisque on a des dialogues à la Audiard qui sont rapportés finalement, ouais. Avec ce Moyen-Âge que l'on imagine. Ouais. Donc voilà. Donc
avec un humour qui est assez corrosif, assez décalé. Je trouve que moi, ce qui est très fort, c'est qu'il met beaucoup en scène la bêtise humaine.
Oui.
Et c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent assez. Et là, justement, on peut en rire.
On peut vraiment, 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 vraiment en rire. Alors, ce que l'on a vu quand même dans cette série, c'est que au fur et à mesure des saisons, puisqu'il y a eu 6 saisons, on a une série qui est passée de la légèreté vraiment pas grivoise, mais pas très loin quand même, mm-hmm. à quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus sombre. C'est vrai qu'on a évolué vers un Arthur qui était beaucoup plus profond, beaucoup plus dramatique, ouais. Une dimension beaucoup plus importante. Et on avait quitté sur la saison 6 un Arthur qui était complètement déprimé, voilà, qui part se réfugier quelque part, on ne sait pas trop où, mais qui est au bord de l'abîme, ouais, voire même au fond de la casserole, comme on dirait. Et donc voilà, donc il a disparu et le film, la suite du film, quoi, ou du moins le film, eh bien s'inscrit dans cette continuité puisque nous sommes 10 ans après la disparition d'Arthur et comme le dit lui-même Alexandre Astier sur l'affiche, eh bien il est pas revenu là cette fois-ci. Arthur, il est pas revenu pour trier les lentilles. Alors moi je vous propose d'écouter la bande annonce de ce film qui est tant attendu.
Où est Arthur Pendragon?
Un gars pas bien grand, blanc comme un cul.
Oh, ça me dit rien.
10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané le fils Pendragon, on le sait tous.
Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis.
Mon Dieu, partout les seins. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever.
Ah, Seigneur Lancelot.
Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties.
Bravo, alors c'est très constructif.
La résistance, ça vous dit quelque chose?
Allez, en piste!
Je me disais que ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance.
Vous entendez quelque chose?
Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous entendez quelque chose ?»
Enfin, quelque chose de complètement informel. Hein.
C'est pas possible d'être largué à ce point-là.
Comment ça se passe, cette petite résistance?
Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche.
Approche sur le chemin?
Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde.
Et s'il y a personne qui approche, on revient.
Non, vous montez la garde.
Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie?
Le fils Pendragon est de retour. Ah ben qu'il vienne.
Il faut tuer Arthur.
Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes? Oui. Les sièges? Vous faisiez pas avant ça?
Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour »?
Bah des fois que vous redeveniez roi.
Quoi?
Oui, oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça.
Voilà, déjà, rien que la bande-annonce, ça donne envie de le voir.
Ouais, ça donne le ton.
Ouais, ça donne le ton,
c'est clair.
C'est clair.
Ah ouais. Comment arriver à finaliser une quête avec des débiles?
Voilà, moi, ça. J'aime surtout, c'est... Mais vous avez jamais entraîné des gens comme ça? Non, mais des débiles comme ça? Non, voilà. Quoique si, quand même. Hein. Donc, c'est vrai, on a le ton, et franchement, ouais. Moi, je trouve que Astier, dans son écriture, mais il est formidable, il est formidable.
Okay. Et c'est intéressant que tu aies parlé aussi du fait que ça s'est un peu noirci, ça s'est... Il a pris en profondeur, en épaisseur, ce personnage, et qui correspond aussi, comme dit Alexandre Astier, aussi à des moments de sa vie où lui-même est passé par des phases difficiles, mais en fait il en a fait quelque chose, un objet artistique et humoristique qui est très fort, quoi.
Oui, qui est très très fort. Ouais. Alors ce qui est encore plus fort, alors on va pas passer parce que on va pas passer une heure, on pourrait passer une heure sur cette annonce de film. Alors c'est vrai que le film devait sortir en 2020, donc à cause du Covid on a retardé, mais pour essayer de faire patienter un petit peu les fans, eh bien il avait fait sortir aussi il y a quelques mois la bande-son, une bande-son du film qu'il a donc créé aussi de A à Z, puisqu'il est aussi compositeur, il est avant tout musicien à la base, hein, c'est ce qu'on oublie, c'est un musicien, donc avec le grand orchestre de Lyon, hein, l'Orchestre National de Lyon, donc un orchestre philharmonique, donc il a créé toute la musique qui reprend l'univers finalement de Kaamelott, et il a voulu vraiment faire quelque chose de bien. On va juste mettre un petit fond musical, si je retrouve le play. Ouais. Voilà, juste sur le premier morceau, par exemple.
Thank you.
on est sur de la musique quand même qui frôle le coup, qui est classique, hein, qui est assez classique. D'ailleurs, la maison d'édition de cette bande son, c'est Deutsche Grammophon aussi en même temps. Donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il est quand même reconnu aussi au point de vue musical. Un sacré bagage quand même ce personnage.
Ouais, puis là on l'entend, c'est une vraie, c'est plus qu'une musique de film. Je sens qu'il y a une vraie orchestration quoi.
C'est lui qui dirigeait quoi. Ouais. Alors, franchement c'est voilà quoi.
C'est ça,
quoi. On a hâte. Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte. Donc, voilà, sur notre première rubrique. Hein, commencer.
Tu nous proposes une petite musique.
Eh ben, une petite musique. Bah, justement, Time is Running Out de Muse.
Hein, impeccable.
Ça peut être pas mal, ça aussi.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5,
la radio qui fait le point dans Bangkok Mafia.
Time is running out, but our time is running out.
Voilà, c'était Muse, Time is running out. Et ben d'ailleurs, le time, il a tellement couru qu'on n'a pas vu que ça se terminait comme ça. Donc voilà. On va parler de quoi là maintenant, Pablo ?
Eh bien, peut-être d'une série ?
Oui, une petite série.
Écoutez, alors du coup, on va parler de la série Peaky Blinders. Donc une série en 6 saisons. Je dédie cette chronique à mes filles, Maya, qui me l'a fait découvrir, et à Gabi, qui la regarde actuellement et qui me l'a fait vivre. Donc voilà, tu peux nous lancer la bande-annonce.
Ouais, je vais te lancer la bande-annonce, c'est parti.
Il va dormir, je fais un rêve. Un rêve dans lequel quelqu'un convoite ma couronne. Down in a city's hollow. Il y a Dieu, et il y a les Peaky Blinders. J'imagine que ta chute est imminente. Soudain, tout le monde change d'attitude à ton égard. Nous n'avons jamais, ne serait-ce qu'entendu parler de votre famille. Aussi, vos menaces ne nous impressionnent pas. Ils ont dit que Tommy Shelby avait du plomb dans l'aile, qu'il avait plus toute sa tête. 3, 2, 1, bam. Tommy Shelby, alors on veut la guerre, hein? Eh ben, tu vas pas tarder à la voir.
Il y aura une guerre. Et l'un de vous deux va mourir. Mais lequel des deux, ça, je sais pas.
Laissez-moi vous dire que vous avez retenu mon attention. Il me faudra des hommes comme vous. Sauf qu'il n'y en a pas deux comme vous. Tuer quelqu'un, c'est lui rendre service. Ou alors, ce sera Thomas Shelby qu'on crucifiera. Il n'y aura pas de résurrection.
Ça a l'air plutôt speed quand même.
Ah ouais, c'est péchu. Hein. On est clairement dans la série noire, dans la série de gangsters, la série de mafieux en fait. Hein.
Ah bah
voilà. Donc, oui. Alors les Peaky Blinders, donc c'est une... actuellement 5 saisons, mais la 6e est déjà sortie aux États-Unis et elle devrait bientôt arriver sur Netflix. On l'attend tous avec grande impatience. Il faut savoir en fait que la série Peaky Blinders est une série télévisée britannique créée par Stephen Knight et diffusée initialement en 2013 sur BBC 2, puis sur BBC 1 en 2019. En France, elle fut d'abord diffusée sur Arte et actuellement sur Netflix et Amazon Prime Video. Donc, elle est saluée pour son aspect cinématographique, la complexité de ses personnages et l'interprétation des acteurs, ainsi que pour son utilisation d'une musique volontairement anachronique. La série a reçu une majorité de critiques positives. Cette série rapporte l'histoire d'une famille, les Shelby, des gitans, les Travelers ou Pavies en anglais, qui sont originaires en fait des communautés nomades originaires d'Irlande, installées à Birmingham. Birmingham, une ville des Midlands, du centre de l'Angleterre, deuxième ville la plus peuplée après Londres, faut le savoir. Et plus particulièrement de leur leader Thomas Shelby, dit Tommy, interprété par Cillian Murphy. Cette bande menée par l'ambition de Thomas Shelby et formée de sa fratrie, pratique le racket, la protection, la contrebande d'alcool et de tabac et les paris illégaux. Un vol d'armes automatiques dont ils sont les premiers soupçonnés pousse Winston Churchill à déléguer sur place l'inspecteur en chef Chester Campbell, officier de la police royale irlandaise, qui emporte avec lui certaines méthodes expéditives. Donc là, tout de suite, ça donne le ton. Nous sommes dans les années folles, exactement. L'intrigue commence en 1919, au sortir de la Grande Guerre, avec trois frères qui sont rescapés des tranchées de Verdun, Arthur, Thomas et John, qui reviennent au pays changés. Plus matures certes, mais aussi traumatisés par les horreurs de la guerre. Ils vont reprendre les affaires illégales de la famille, et notamment autour des paris hippiques dans un premier temps. Les Peaky Blinders représentent un gang mafieux de la fin du 19e siècle qui a sévi jusque dans les années 30. Ils sont célèbres pour leur violence et l'utilisation de leurs casquettes coupantes. Des casquettes coupantes, oui.
Des casquettes coupantes, c'est-à-dire, oui. Tu peux expliquer ça ?
Alors j'explique, en fait, effectivement, ils cousaient des lames de rasoir dans la visière de leurs casquettes et s'en servaient comme arme contre les autres gangs dans les batailles de rue, les bagarres, etc.
Ça donc, rasage de près assuré,
exactement. Et en fait, on racontait effectivement qu'ils avaient tendance à vous lacérer le nez et donc à vous aveugler soit par les larmes, soit par le sang. Oh. Et d'où leur triste surnom. Donc on est quand même dans quelque chose, il faut le dire tout de suite, assez violent. Hein. On est chez les mafieux, on ne va pas se le cacher. Hein. Alors justement, parlons des personnages. Les personnages. À travers les personnages, la série dépeint une galerie de caractères et de portraits. Un hommage d'abord à l'actrice Helen McCrory, interprète de la tante Polly, Grace Shelby, la matriarche du clan, excellente, intelligente et émouvante dans son rôle, malheureusement qui vient de décéder en avril dernier des suites d'un cancer. On l'a vu dernièrement dans le rôle de Narcissa Malfoy dans les trois derniers films Harry Potter. Donc elle a interprété donc la femme de Lucius Malfoy, donc la mère de Draco. Et puis bien sûr dans cette série, on l'avait aussi vu dans un James Bond, le Skyfall en fait, la série des nouveaux James Bond, Skyfall.
D'accord.
Où elle jouait le ministre de la Défense. Donc
et,
voilà.
Et quand tu dis tant de poli, moi ça me fait penser à Tom Sawyer, mais ça n'a rien à voir.
C'est ça. Mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Elle a de la poigne clairement, mais elle est vachement plus belle et sexy et en même temps intelligente, d'une intelligence redoutable. Donc il est à noter justement qu'elle incarne un rôle féminin important dans Peaky Blinders, puisqu'elle dirige le clan avec Thomas Shelby. D'ailleurs, la série met à l'honneur les femmes, des femmes puissantes par leur intelligence et leur détermination, là où les hommes s'illustrent plutôt par leur violence et leurs émotions. Alors ça, c'est intéressant de voir que justement les femmes vont plutôt incarner l'intelligence, même si on a Thomas Shelby qui est particulièrement intelligent, mais plus que l'émotion. Il y a des jeux un peu sur les clichés et sur les genres qui sont assez intéressants dans ça.
Apparemment, ça a l'air d'être vraiment le cliché, la femme très douce, qui est très posée, très réfléchie, et puis les mecs très bourrins qui pensent qu'une seule chose à castagner.
C'est ça. Et là, on n'est pas tout à fait là-dedans. C'est ça qui est intéressant.
C'est bien.
Ouais, tout à fait. Alors évidemment, le personnage principal, c'est Thomas, dit Tommy Shelby, interprété par Cillian Murphy. Il incarne un gangster pragmatique, intelligent, réfléchi et stratège, et beau en plus. S'il n'hésite pas à utiliser la violence dans l'action, il va privilégier la négociation et la stratégie à long terme. Souvent filmé en très gros plan, il nous fixe de son regard bleu ciel et fixe, d'une rare transparence, comme pour nous inviter à deviner ses pensées et à interpréter ses émotions. Un peu comme l'acteur qui interprète Ragnar Lodbrok dans la série Vikings, si vous voulez. Oui, on le voit souvent méditer, réfléchir aux stratégies de son pouvoir, aux stratégies d'action, comme s'il était face à un jeu d'échecs. D'ailleurs, ces séries semblent suggérer que la violence et la force est insuffisante pour faire un chef ou un leader, mais qu'il faut aussi l'intelligence et une finesse d'analyse.
Hein, ça me fait penser aussi à Son of Anarchy aussi en même temps.
Exactement.
Où t'as cette réflexion, cette violence qui est quand même omniprésente aussi en même
tout
temps. Et puis on est en train de réfléchir à des projets, comment faire pour accéder au pouvoir, quoi, ouais, finalement.
Absolument. Et d'ailleurs, t'as remarqué que pareil dans Sons of Anarchy, on a un personnage blond,
oui,
avec un regard bleu ciel, absolument, enfin, qui ressemble à un ange, clairement, un ange déchu, effectivement.
Ouais.
Mais qui est particulièrement stratège, fin, alors qu'on ne l'attendrait pas comme ça, effectivement, puisque c'est un genou, au départ, on se dit, bon, que va-t-il faire? Et effectivement, il y a
des parallèles comme
parallèle
ça.
Sur les leaders qu'on peut mettre à l'épreuve et qui se révèlent être de fins stratèges, en fait.
Mm-hmm.
Plus par leur intelligence que par leur violence. Donc, enfin, selon moi, je vous parle d'un dernier personnage, c'est pour moi, le personnage qui crève quand même l'écran dans la série Peaky Blinders, on revient à Peaky Blinders, c'est Arthur Shelby, interprété par Paul Anderson, donc celui dont les symptômes post-traumatiques de la guerre sont les plus saillants, le plus instable, c'est le plus fragile et le plus violent. Toujours borderline, il est imprévisible, sa violence éclate de façon brute, hein, On est clairement dans un genre noir, comme je l'ai dit, un film de gangster à l'ancienne, avec un code d'honneur et des activités illégales de mafia anglo-saxonne. On retrouve des bagarres de rue, des tueries, les intrigues de pouvoir, les guerres de territoire et les rapports de force entre gangs, puis entre mafias. Après les personnages, je mettrai aussi l'accent sur l'ambiance et les costumes. D'accord, dans les costumes des années folles, donc jusqu'aux années 30, on va aller jusqu'au grand krach boursier de 1929. L'ambiance étrange elle est étrange entre traumatisés, ignorés, entre ces gueules cassées, délaissées de la Grande Guerre, et puis une frénésie de fêtes, de danses, de drogues, de sexe, toutes et tous dans des costumes magnifiques. Ils sont classe, ils sont extravagants, ils sont élégants et canailles à la fois, avec notamment tout ce qu'incarne un peu la casquette des Peaky Blinders. Voilà. Évidemment, l'histoire est là. L'histoire, la grande histoire avec un grand H, éclatante, elle avance avec eux, hein, puisqu'on part quand même de la révolution russe de 1917 avec ces militants communistes qui arrivent dans les îles britanniques. Il y a cette guerre intestine de l'IRA avec l'Angleterre. Et puis, bien sûr, il y a la montée des fascismes en Europe et le krach boursier de 1929 aux USA avec ses répercussions en Europe. Donc, la série quand même balaye tout ça. Enfin, je parlerai quelques mots sur la musique volontairement rock et décalée, anachronique, comme la superbe chanson de Nick Cave qui forme le générique, The Red Right Hand. Voilà, écoutez, je vous suggère de l'écouter tout de suite.
Voilà, c'est parti.
Secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Oh,
c'était Nick Cave and the Bad Seeds, The Red Right Hand. Donc effectivement impatient de retrouver nos bad boys and bad girls dans la saison 6 qui va bientôt sortir, qui est déjà sortie donc aux USA et prochainement donc sur Netflix et Amazon Prime Time, donc Peaky Blinders. Merci de votre écoute les amis.
Bah, merci à toi Pablo de nous avoir fait découvrir cette série et ça donne vraiment envie de la voir. Vraiment hâte quoi, franchement.
Cool.
Une bonne petite découverte. Bah, je te propose de continuer avec un petit morceau de musique qui va encore terminer de nous décrasser les cages à miel. Un petit Midnight Oil.
Ouais.
Beds are burning.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5, la radio FM, la radio qui fait le point les amis.
La radio qui fait le point.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while
give it back.
Voilà, c'était Midnight Oil, Beds Are Burning. J'espère que les lits n'ont pas trop brûlé quand même. Hein.
Quand même. Des fameux Australiens et qui ont pas mal bougé à l'époque. Hein,
ouais.
Et qui ont inspiré pas mal de monde, en fait.
Oui, et puis c'est vrai, en plus, le chanteur était assez... Quoi, et il est toujours aussi assez impressionnant, grand, presque 2 mètres, un gaillard comme ça.
C'est
là.
Clair, une armoire.
Une armoire, un rugbyman, voilà. Bah, je te propose de passer à la bande dessinée, maintenant.
Allez, allons-y.
Allons-y gaiement. Pas de générique, oh, allez, hop, on passe les génériques là ce soir et puis on y va directement.
On sur les musiques.
On va peut-être commencer.
T'as peut-être une jolie BD à nous présenter là. T'en as plusieurs d'ailleurs.
Moi j'en ai plusieurs, hein, sais bien, j'en ai toujours. Là, je vais finir par ouvrir une librairie, ça va être plus simple.
Ce serait plus simple.
Ça serait plus simple pour moi.
Je te vois bien, ouais.
Ouais, moi aussi. Alors ça, c'est sur la maison d'édition Grand Angle, qui est une filiale de la maison d'édition Bambou. Kit Toussaint et Tristan Joss proposent une bande dessinée en 2 tomes, Ennemi. Alors le premier tome, c'était noir, le deuxième tome, c'est blanc. Alors voilà. Okay. En pleine guerre de sécession, le nordiste Kane est chargé de traquer Jeb Stuart et son insaisissable bande de confédérés qui harcèlent les soldats de l'Union. Mais le bruit court qu'un traître s'est glissé parmi la section. Après être tombé dans un guet-apens sudiste ayant provoqué la suspicion et règlement de compte interne, la section de Kane, maintenant incomplète, reprend sa chasse. Elle doit composer avec l'animosité de ses soldats au fort tempérament, une mission des plus risquées et surtout avec une interrogation mortifère. Qui en son sein œuvre pour l'ennemi ? Et là, franchement... On a une bande dessinée en 2 tomes, quoi, une histoire en 2 tomes, qui est carrément géniale. Sur le premier tome, donc, qui s'appelle Noir, on a ces personnages, on a l'impression qu'ils viennent de nulle part, et puis au fil du temps, on s'aperçoit que des liens se tissent, et que finalement, ils se connaissent peut-être. Et donc l'histoire en elle-même, effectivement, on est dans cette période de la guerre de sécession où le Nord envahit le Sud, que le Sud organise des bandes comme il y a un célèbre voleur, Jesse James.
Ouais, Jesse James.
James, eux faisaient un petit peu le bazar sur les arrières des lignes nordistes. Ouais. Donc Jeb Stuart, donc le personnage là ici justement confédéré et chef confédéré, bah, fait exactement la même chose.
D'accord.
Et donc on a une traque au départ qui semble tout à fait anodine, et puis au fur et à mesure de l'histoire on découvre les personnages. Moi je vous conseille, on passe un bon moment, le dessin est magnifique aussi. Ouais. En même temps, donc
on est chez les cowboys,
les tuniques bleues, ceux qui aiment les tuniques bleues là, qui est un petit peu connu aussi, bah, on s'y retrouve aussi en même temps, donc c'est très très bien. Alors, deuxième bande dessinée, toujours aux éditions Grand Angle, hein, comme quoi Grand Angle produit pas mal. Là, on n'est pas du tout sur la même bande dessinée, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus. Il y a plus de réflexion aussi en même temps. De Hordas Mounier, L'école buissonnière. Alors déjà, quand on dit le titre, ça laisse penser. Mmh. Nous sommes en décembre 1943. Pour Jacques, François et Jean, le baccalauréat est en ligne de mire. Ah, tiens, ça fait penser à nos amis.
C'est d'actualité.
C'est d'actualité, à nos amis bacheliers. Hein, courage, encore quelques temps.
Ouais.
Mais une altercation avec un soldat allemand va bouleverser le cours de leur vie. D'autant que les racines juives de Jacques le mettent maintenant en grand danger, accompagné de Colette, cousine de François, et avec ce sentiment qu'un étau se resserre inexorablement sur eux, ils fuient vers la Corrèze. Là-bas, leur seul échappatoire est d'intégrer le maquis et de résister.
Ah, pas mal. Oui, en plus, on retrouve les maquisards du Limousin, de la Corrèze.
Voilà. Ouais. Donc, et puis, au final, on a une histoire aussi autour de ces 4 jeunes qui se retrouvent pris par le fil de l'histoire. Mmh. Hein, au départ, voilà, ces 4 jeunes qui ont qu'une seule envie, c'est de s'amuser.
Ouais, des lycéens qui veulent fêter leur bac.
Et puis, tout simplement, Jacques, lui, veut simplement flirter avec Colette. Mais voilà, tout ça part en sucette, c'est le cas de dire.
C'est clair.
C'est clair. Donc ça, je vous conseille aussi, c'est une très très belle histoire et qui donne aussi à réfléchir, surtout sur sa fin. Alors, on est toujours dans le même contexte. Hein, vous voyez, moi, je suis toujours très très gay hein, sur mes lectures, hein, toujours un petit peu.
Oui, on est quand même dans des BD historiques. Hein.
Historiques, bah, on peut pas faire faire autrement.
Je peux pas faire autrement.
On se refait pas.
Ah si, j'en ai oublié une aussi, les bretonneries. Je voulais vous parler, je vous en parlerai la prochaine fois, bretonneries. Ça c'est pas mal ça aussi. Et donc là, une autre bande dessinée. Alors là, c'est une série qui débute. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis. Le 4e est en cours d'élaboration. De Brunschwing, Le Roux Chevalier, aux éditions Delcourt, Les Frères Rubinstein. Et le sous-titre, c'est Le Coiffeur de Sobibor. Donc déjà, là, déjà, quand on dit... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Sobibor est un des centres d'assassinat organisé par les nazis. Donc voilà, donc on plante déjà un petit peu le décor. C'est très, très gai.
C'est intriguant, déjà, Le Coiffeur de Sobibor.
Le Coiffeur de Sobibor, hein, tout en sachant que à Sobibor, il y a eu très, très peu de personnes qui ont survécu, ouais, quand même. Donc voilà. Et puis en réalité, ce coiffeur de Sobibor, eh bien, on va suivre son aventure, l'aventure de ses deux frères finalement, qui débute dans la France des années 30, qui va faire un petit virage aussi dans les États-Unis des années 30, dans le milieu du cinéma, comme on peut dire, et qui va faire un parallèle. Alors donc voilà, on a l'histoire qui se découvre au fil de la lecture, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3-4 planches qui nous parlent de l'histoire, et puis d'un seul coup, on a une planche qui nous ramène au temps où justement l'un des frères Rubinstein est le coiffeur de Sobibor. Donc il y a un parallèle entre son histoire passée, son histoire présente qu'il vit, et c'est extrêmement intéressant, et extrêmement aussi, il y a une grande profondeur. En même temps, on voit aussi que le racisme, la haine, la xénophobie sont présentes, et ouais, extrêmement présentes dans cette société des années 30, ouais, et pas uniquement du côté des Allemands. Donc voilà, ouais, donc une bande dessinée aussi extrêmement intéressante, 3 tomes pour l'instant. Donc voilà.
Bienvenue.
Donc je vous répète les titres,
ouais,
quand même.
Rappelle, hein, ouais, ouais.
Donc aux éditions Delcourt, Les Frères Rubinstein, Le Coiffeur de Sobibor, hein, de Brunschwig, Le Roux et Chevalier, de Hordas et Mounier, aux éditions Grand Angle, L'École Buissonnière, et puis enfin de Kid Toussaint et Tristan Joss, Ennemis, aux éditions Grand Angle. Ennemis est peut-être la bande dessinée la plus joyeuse des 3 que je vous ai présentées.
Et voilà. Quoique, hein, sur fond de guerre quand même. Hein.
Quand même, oui, c'est assez joyeux. On a des personnages assez truculents aussi. Hein.
Alors, est-ce que je présente la mienne?
Mais vas-y.
Une fois n'est pas coutume, je peux présenter une bande dessinée. Alors, effectivement, alors moi, là, c'est aussi quelque part une bande dessinée historique, mais également fantastique et poétique. Il s'agit de la BD Peau d'homme. C'est une BD créée par Hubert et Zanzim aux éditions Glénat. Alors, c'est une BD très belle et poétique, tant dans le graphisme très épuré et les lignes déliées, un mouvement enlevé aussi, tant dans le graphisme donc que dans le scénario original et engagé. Le synopsis. L'histoire se déroule dans la Florence, dans la Florence de la fin du Moyen-Âge en Italie, bien sûr, et peut-être de la Renaissance. La temporalité n'est pas exactement précisée, hein, on se fie au costume et à l'ambiance. C'est l'histoire de Bianca, une jeune fille de l'aristocratie, dont le mariage a été arrangé par ses parents avec un jeune homme riche et noble tout autant qu'elle. Voilà. Donc au départ, on part sur un mariage arrangé de type tout à fait classique. Sauf que là, sa tante, qui est aussi sa marraine, va lui offrir un étrange cadeau qui se transmet dans la famille de génération de femmes en génération de femmes. Une peau d'homme appelée Lorenzo. Quand Bianca met cette peau par-dessus la sienne propre, elle change de sexe et de visage, elle change de corps tout en restant elle-même en tant qu'âme et conscience. Elle devient alors Lorenzo en apparence. Donc elle peut s'immiscer dans le monde des hommes sans aucune difficulté et passe totalement inaperçue. C'est alors qu'elle a furieusement envie de découvrir dans cette nouvelle peau qui est véritablement son nouveau mari ou son futur mari. Parallèlement, son frère, devenu moine, commence à gagner en influence et en pouvoir au sein de la ville. Ses discours fondamentalistes et misogynes commencent à gagner de plus en plus les esprits. Donc, cette BD, résolument féministe et LGBT+, interroge la place et la liberté des femmes, donc a fortiori celle des hommes. Elle interroge l'identité et le genre, mais aussi elle interroge la religion, notamment dans son interprétation fanatique et patriarcale des textes fondamentaux. Donc, je rappelle, c'est une BD qui s'appelle « Peau d'homme » d'Hubert et Zanzim aux éditions Glénat. Je vous souhaite une bonne lecture.
Ouais, ça donne envie aussi en même temps. Ouais. Moi, je te propose de continuer avec un petit morceau de musique hein, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui fait du bien encore une fois. Un petit David Bowie.
Clairement.
Ouais. Let's Dance. Et puis, on va essayer de danser sur cette musique.
Absolument, Let's Dance sur cet été.
Sur cet été, dans, sur Radio G 101.5.
Quelle radio qui fait le point.
David Bowie, Let's Dance. Let's Dance. Hein, on va nous laisser danser. Ça va être bien cet été.
Ouais.
Ça va être bien.
Ça va faire du bien.
Ça va faire du bien. Oui, ça va faire du bien. Alors, un petit truc aussi à écouter.
Future Shock Radio FM.
Eh bien voilà, Pablo, on arrive au terme de cette émission.
Mais oui, quel hein? plaisir ça a
quel
été.
Quel plaisir,
bah
effectivement.
Ouais, d'échanger ouais. Sur tout ça. Et puis, bah écoutez, on a passé quand même une belle année, oui. Malgré toutes les difficultés, les embûches, les confinements et autres. Belle réjouissance qu'on a connue. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai
on a
c'est
quand
vrai.
Même tenu.
On a tenu bon, donc du coup, les vacances vont faire du bien, je pense, à tout le monde. Donc surtout, prenez soin de vous quand même, prenez soin des vôtres aussi, clairement. Faites attention à vous, bien sûr. Et puis, on va vous donner rendez-vous, non pas dans 15 jours cette fois-ci, dans un petit peu plus longtemps.
À la rentrée.
En septembre.
On viendra en forme avec plein de nouvelles chroniques, de choses à vous présenter sur tous les sujets qu'on aime.
Des films, des séries, des BD, des livres.
Exactement.
Tout ce qu'on aime, voilà.
Des musiques.
Des musiques, et surtout de la musique.
Et voilà.
Et voilà. Et d'ailleurs, moi, je te propose de terminer en musique. Alors, non pas avec notre générique, mais là, cette fois-ci, de terminer tranquillement avec un petit gossip.
Allez.
Standing in the way of control. Alors, si ça veut partir, bien sûr, parce que ça
merci sera... à tous.
Ouais,
et à
merci
très bientôt, les
à
amis.
Tous. Et puis,
ciao.